Une entreprise nommée Cambridge Analytica, accusée d'avoir détourné les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et d'en avoir fait usage pour de la publicité électorale ultra ciblée durant la campagne de Donald Trump, et également soupçonnée d'avoir œuvré en faveur du camp du Leave pendant la campagne du Brexit. Et c'est une affaire qui pose toute une série de questions que je vais vous poser. Amaëlle Guiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste dans Libération. Alors tout d'abord, comment ces données personnelles ont-elles été dérobées?
En fait, elles n'ont pas été dérobées, elles ont été collectées selon une procédure qui était à l'époque parfaitement possible. Vous savez que il existe des applications, des jeux, des services auxquels vous pouvez vous connecter en utilisant votre compte Facebook. Bon, il se trouve que du coup, ces applications récupèrent un certain nombre de données personnelles. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'au départ, on a un universitaire, un chercheur en psychologie à l'université de Cambridge, pour le coup, qui met donc en ligne un test psychologique auxquels vont se connecter 270 000 utilisateurs de Facebook. Le problème, c'est qu'à l'époque, on est en 2014, il y avait une fonctionnalité qui permettait en fait aux développeurs de ces applications tierces, de récupérer non seulement des données des utilisateurs qui se connectaient, mais aussi de leurs amis. Voilà. Et donc, ça a permis à cet Alexander Kogan de récupérer des données, des likes, les listes de contacts, etc., de 50 millions d'utilisateurs de Facebook.
Alors, une fois qu'on a cette masse de données importantes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que il faut, là aussi, lorsqu'on parle de publicité ciblée, Cambridge Analytica a tout intérêt à passer pour une entreprise omnisciente, mais qu'est-ce que l'on sait sur l'efficacité véritable de ce type de communication? Ou en tout cas de ce type de campagne de publicité?
C'est la grande inconnue de cette affaire, parce que vous le disiez, effectivement, eux ont tout intérêt à se mettre en avant, et y compris à avoir un discours qui consiste à dire qu'ils peuvent faire basculer des élections, et c'est ce qu'on a vu notamment dans le documentaire de Channel 4 avec le patron de Cambridge Analytica, qui se vante d'avoir fait basculer la présidentielle au Kenya, etc. Il y a une large part aussi d'image, faut savoir qu'en plus, c'est une filiale d'une entreprise qui existe depuis 20 ans, Cambridge Analytica date de 2013, mais la maison mère Strategic Communication Laboratories a 20 ans et ils font ce qu'on appelle des opérations d'influence pour des gouvernements, pour des structures militaires, etc., des opérations psychologiques. Donc évidemment, ils ont besoin de se construire cette image. Ils disent qu'ils ont été capables, à partir de ces données, de construire des profils psychologiques pour pouvoir cibler des électeurs. Après, le problème, c'est qu'on a en réalité très peu de données sur ce que ces électeurs ont vu. On comprend qu'effectivement ils ont ciblé des gens qui pouvaient être tangents dans certains états précis, etc. Mais c'est aussi là où Trump a fait ses derniers meetings. Sur l'efficacité, il y a un vrai débat et on a très peu d'éléments, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent que on n'a pas vraiment... ça a pu participer, effectivement, mais de là à dire que ça a pu faire gagner l'élection à Donald Trump, ce serait quand même très exagéré.
Il est déjà arrivé, je crois, que des candidats qui ont perdu des élections et eu recours au service de Cambridge Analytica.
Oui, ne serait-ce que Ted Cruz, en l'occurrence, puisque le premier poulain sur lequel a parié Steve Bannon, puisqu'il est
C'est pas un nouveau dans la danse.
Absolument, c'est l'équipe, donc Steve Bannon et Robert Mercer, qui est ce millionnaire, qui est aussi le financier de Breitbart, enfin cette espèce d'écosystème de l'ultra-droite, au départ a parié sur Ted Cruz à la primaire. Bon, il se trouve que c'est Trump qui l'a emporté. Mais le micro-ciblage, c'est pas une nouveauté non plus, parce que je suis retombée il y a très peu de temps sur la une de la revue technologique du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology de Boston, le numéro de janvier 2013, juste après la campagne Obama. Le titre, c'est quand même « Les big data vont sauver la politique ». C'est-à-dire qu'à l'époque, cette idée de micro-ciblage d'électeurs apparaissait comme une idée de génie.
Amaëlle Guiton, en quoi est-ce interdit?
Le micro-ciblage. C'est pas interdit aux États-Unis.
Mais même en France, si je réussis à collecter des données qui sont des données collectées évidemment de manière légale, ce qui est possible puisque dans les conditions d'utilisation de Facebook, des autres services en ligne, il y a toute une série de mentions qu'on ne lit jamais. On ne les lit jamais, ces mentions. Et donc, il est tout à fait possible que ces services récoltent des données. D'ailleurs, on le sait, ils se rémunèrent comme ça. C'est ainsi que leur business repose sur la vente de nos données personnelles. Est-ce que du coup, on est certain que tout cela est illégal, qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être utilisé à notre insu.
Alors, aux États-Unis, effectivement, c'est pas illégal du tout de faire du micro-ciblage, mais parce qu'aux États-Unis, il y a aussi énormément de données qui sont très facilement accessibles, et notamment les listes électorales, etc. En France, c'est quand même un peu différent, parce qu'on a un cadre réglementaire qui est plus protecteur, et je me souviens notamment qu'au moment de la présidentielle française, par exemple, quand la Commission nationale de l'informatique et des libertés a vu arriver toutes ces plateformes de gestion, justement, de bases de données militantes, etc., on parlait beaucoup d'un logiciel qui s'appelle Nation Builder à l'époque, qui était utilisé de Mélenchon à François Fillon, ils ont regardé d'abord, ils sont allés, y compris chez les Républicains, voir comment tout ça a été utilisé, et ils ont mis des garde-fous pour que, effectivement, on ne puisse pas faire n'importe quoi, pour qu'on ne puisse pas récupérer les données personnelles sans le consentement des utilisateurs eux-mêmes, etc. Très honnêtement, je pense qu'en Europe, on est beaucoup mieux protégé qu'aux États-Unis.
Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a confessé une faute. Laquelle dans ces conditions? Parce que on se pose la question de savoir quelle est la responsabilité de Facebook dans cette affaire.
Bah alors, il dit qu'il y a eu des erreurs de fait et il dit principalement que sa grande erreur a été de faire confiance à Cambridge Analytica. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de cette entreprise a été mis en cause dès décembre 2015, c'est pas neuf, hein, par le Guardian et à l'époque, précisément pour son rôle dans la campagne de Ted Cruz. Et donc, à ce moment-là, Facebook a appris que ces données s'étaient retrouvées chez cet acteur sans le consentement des utilisateurs.
Elles y sont, c'est trop tard.
Ils leur ont demandé de les détruire et il se trouve que Cambridge Analytica manifestement ne les a pas détruites. Et c'est la faute principale que Mark Zuckerberg confesse. Mais en même temps, c'est compliqué pour lui. C'est-à-dire que tout son modèle économique repose sur la monétisation des données de ses utilisateurs. Et d'une certaine manière, cette formule que répètent souvent les défenseurs des libertés publiques, quand c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, là, pour le coup, on en a une démonstration. Il ne peut pas tellement dire grand-chose d'autre. C'est-à-dire qu'aller plus loin, ça serait reconnaître que c'est son modèle économique qui est effectivement fautif et que c'est à cause de ça que les données des utilisateurs sont utilisées par des tierces parties. Cambridge Analytica, c'est la pointe émergé de l'iceberg, et comme c'est une entreprise, effectivement, bon, on le voit dans le docu de Channel 4, qui est un peu barbouzarde, tout ça fait quand même un peu tâche, mais des applications tierces, il y en a plein, et il a dit qu'il allait auditer tout ça, mais effectivement, ça n'est probablement que l'arbre qui cache la forêt.
Les choses peuvent-elles changer aujourd'hui?
Pour que les choses changent...
Est-ce que, par exemple, il y a un hashtag qui incite à sortir de Facebook, il y a un mouvement, est-ce que vous y croyez vraiment?
Alors, la sortie de Facebook, très honnêtement, j'ai du mal à y croire, tout simplement parce que comme c'est une plateforme où tout le monde est, les gens y sont pour garder leurs contacts, etc. Je pourrais avoir tort, hein, mais non, en revanche, ce qui est un vrai changement, c'est la pression politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis, en Europe, etc., des responsables dire il faut réguler tout ça, il faut peut-être même changer de paradigme. Et oui, à minima, il va y avoir un vrai débat.
Merci à Maëlle Guiton. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Hackers au cœur de la résistance numérique. C'est publié au Diable Vauvert.